sont des films de famille à transmettre aux enfants plus tard. Donc je fais des souvenirs heureux pour les gens. Moi, on m'avait dit, tu vas voir, les trois premières années, elles sont fatidiques, soit ça passe, soit ça casse. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre toutes mes chances de côté, je vais tout donner. Aux États-Unis, il y a des milliers de vidéastes, et nous, en France, ça n'existe pas. Donc je m'étais dit, il faudrait que je forme des gens à faire la même chose que moi.
Changer le monde, ça passe par changer la place des femmes et mettre en lumière les rôles modèles qui façonnent notre époque en créant une nouvelle économie. Chaque jour, des femmes incroyables entreprennent et définissent leurs propres règles du jeu. Et je rêvais de comprendre comment elles ont fait. Hello, je suis Delphine Barnavon, coach de CEO et hôte de ce podcast. Bienvenue sur Powerful Club, le podcast qui décrypte les meilleures stratégies business de celles qui ont monté leur boîte. Si toi aussi, tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi, alors abonne-toi. Parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour y arriver. Elle est la preuve que peu importe son marché, il faut rêver grand et qu'on peut amener de l'innovation partout. Clara Dess est vidéaste de famille et si ça ne vous dit rien, c'est plutôt normal. Cette ancienne journaliste qui a passé 10 ans dans les studios de télévision et parcouru le monde entier pour réaliser des documentaires est une passionnée de montage. Pleine de poésie, elle rêvait de conjuguer celle-ci à la vidéo et cherchait un moyen de le faire à travers son métier. À la naissance de sa fille, elle la filme et l'évidence apparaît. L'émotion ressentie est d'une force folle. Le détail de chaque sourire, de sa gestuelle, de ses regards encore plus. Clara comprend qu'elle tient son nouveau métier, faire des films de famille. On est en 2019 à ce moment, et si aux États-Unis le marché est en plein essor, en France, il est inexistant. Alors Clara l'a créé et s'impose sur ce marché sous le nom de Croco Maman. 4 ans après, Croco Maman, c'est 200 films réalisés, 11 000 followers sur Instagram, 200 films montés à partir des vidéos de nos téléphones avec lesquels on ne fait rien, une académie pour former les photographes à faire de la vidéo de famille, un reportage sur M6 et environ 1 million de souvenirs pour toutes ces familles. Mais c'est aussi une entrepreneuse passionnée et passionnante et follement ambitieuse qui prouve que les disciplines artistiques peuvent devenir des entreprises à condition que vous les considériez comme telles. Préparez-vous à prendre un shot de posture. Dans cet épisode, on aborde pourquoi la niche est-elle importante, comment fixer ses prix en tant que photographe ou vidéaste, comment parler de ses offres sur Instagram, comment utiliser la Disney Map pour faire évoluer sa boîte, pourquoi développer son ambition, comment a-t-elle fondé son académie et pourquoi est-il nécessaire de déléguer pour grandir. Vous allez avoir très envie de développer votre écosystème. Comme toujours, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler, à le partager en story, à me glisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Ça me fait toujours ultra plaisir de lire vos mots doux et ça me permet d'aller chercher des entrepreneuses toujours plus incroyables. Je vous laisse avec Clara pour cet épisode plein d'optimisme. Belle écoute! Hello Clara!
Hello Delphine!
C'est un jour un peu particulier pour moi parce que tu es une de mes auditrices les plus fidèles. Je t'ai découverte parce que tu partageais de temps en temps les épisodes du podcast. Et après, j'ai découvert ton métier, tout ce que tu avais construit. Et on s'est dit que ce serait très chouette d'enregistrer ensemble.
Ah bah, c'est vraiment un honneur parce que moi, je crois que j'avais aussi craqué sur ton podcast. Et ensuite, j'ai craqué sur ton compte perso parce qu'on portait les mêmes vêtements, les mêmes combis. Je me suis dit, oh, ça doit être une fille chouette. Du coup, d'être sur ton podcast, wow, c'est un super honneur. Merci d'avance.
Petit clin d'œil à Jessica Troisfontaine et ses merveilleuses combis Septem. Une des choses qui me fascine le plus chez toi, c'est la fluidité avec lesquelles tu parles de tes offres en story. Je compte pas le nombre de fois où j'ai dit à mes clientes qui ont souvent du mal, allez voir le compte de Croco Maman, elle le fait de manière très régulière, tous les jours quand c'est pas un jour sur deux. Et c'est toujours ultra fluide dans la manière de l'amener, tu vois, c'est pas répétitif, ça te dérange pas, vraiment, est-ce que t'as toujours eu cette fluidité ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure?
Bah, je pense qu'on a tous du mal à parler de nos offres, on a l'impression de saouler les gens. Moi, il y a deux choses. Au début, j'avais peur de saouler les gens, tu sais, en mode achetez-moi, marchand de tapis, etc. Je me suis fait coacher l'an dernier et j'ai appris à déjà être fière de ce que j'avais à vendre. En fait, c'est trop, trop bizarre de te dire ça, mais quand les gens achètent, ils me payent, mais j'ai l'impression de leur faire un cadeau. Du coup, en fait, ils ont besoin de voir mes offres parce que je me dis ça va tellement les aider dans la vie que j'ai beaucoup moins de difficultés à en parler. Par contre, je me force un petit peu à être présente, tu vois, plus souvent que ce que j'aurais envie de faire. Parfois, avant, je communiquais peut-être une fois par semaine sur mes offres. Maintenant, là, je suis en plein lancement. J'ai des petites offres pour Noël, donc j'en parle tous les jours. J'essaie d'être un petit peu plus régulière quand même. Mais j'aime bien. Ça ne me dérange pas de parler de ce que j'ai à vendre.
Je trouve ça beau quand tu dis « je leur fais un cadeau » parce que c'est vraiment quelque chose et une forme de mindset qu'il faut avoir dans la vente à un moment donné. C'est-à-dire que si tu es vraiment convaincu de ton produit et que tu sais que tu l'as créé pour apporter quelque chose aux personnes en face de toi, bah, t'es pas en train de leur soustraire de l'argent. Pour le coup, t'es vraiment en train de leur offrir quelque chose dont ils ont besoin et où ils vont être hyper contents d'investir, eux, de leur côté.
Bah, c'est vrai que je leur vends pas des cigarettes ou des choses qui leur font du mal. Moi, je vends des films de famille à transmettre aux enfants plus tard. Donc, je fais des souvenirs heureux pour les gens. Et je suis, oui, comme tu dis, convaincue de la valeur de ce que j'apporte. Donc, oui, j'ai aucun souci à leur parler de ce que j'ai à vendre parce que... Je le fais pour eux, en fait, plus que pour moi.
Si je rembobine, t'as lancé Croco Maman au moment où toi-même t'es devenue maman.
C'est ça.
Et à ce moment-là, t'avais déjà une communauté sur ton compte perso. Comment on arrive à passer d'un compte perso sur Instagram où les gens nous suivent parce qu'on partage notre vie de maman à un compte pro où d'un coup on amène des services?
Alors, tu dis que j'avais une communauté, mais je pense que je devais avoir 300 personnes au début, quelque chose comme ça. En fait, j'étais pas trop Instagram avant. Je refusais d'y aller parce que tout le monde avait Instagram et je trouvais que c'était, je sais pas, c'était surfait. C'est un peu comme les converses où tout le monde en a eu au collège. Et j'étais là, non, je ne peux pas faire comme tout le monde. Et bah, maintenant, à 33 ans, j'ai des converses tous les jours. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, j'avais fait un compte Instagram juste pour montrer ma grossesse et mon ventre. Et en fait, ça a commencé à attirer que des femmes qui étaient enceintes en même temps que moi. Donc ça a créé, oui, une communauté de femmes enceintes ou de mamans. Mais à l'époque, je travaillais à la télévision, donc je n'avais pas du tout pensé à créer Croco Maman. Et puis d'ailleurs, ça s'appelait Croco Maman, c'était juste parce que tous les pseudos étaient pris et que j'avais choisi Croco Maman, parce que je trouvais ça mignon et que c'était un peu notre surnom d'amoureux, Croco. Et après, quand j'ai voulu lancer Croco Maman pour de vrai, j'avais fait un sondage auprès de mes quelques abonnés. Je leur avais dit... À votre avis, est-ce que je garde Croco Maman comme nom ou est-ce que je fais un truc un peu plus pro, Clara Dess, qui est mon nom? Et puis j'avais eu 50% des gens qui m'avaient dit « Ah non, non, pas Croco Maman, ça fait pas pro du tout ». Et puis l'autre pourcentage qui m'avait dit « Non, Croco Maman, c'est hyper mignon ». Au début, je commençais à poster des vidéos de ma fille quand elle était bébé. Il y avait les gens qui me commentaient « Oh là là, trop chouette », etc. Puis j'alternais avec du perso et en fait, petit à petit, j'ai mis de plus en plus de vidéos et c'est là que j'ai eu l'idée de créer Croco Maman et de lancer mes premières offres. Je viens chez vous, moi aussi je filme vos bébés. Donc ça s'est fait de façon hyper naturelle. Si tu retournes sur mon feed, tout en bas, il y a encore mon vieux compte avec que des photos plutôt, très peu de vidéos.
Est-ce que ça t'a aidé à trouver tes premiers clients, ce compte Instagram ou comment t'as fait au début?
Tout à fait. En fait, je pense que toujours, c'est 90% de ma clientèle vient d'Instagram. Et mes premiers clients, c'était mes premiers abonnés. Quand je me suis lancée à mon compte, j'ai fait des offres indécentes. J'ose même pas dire combien je vendais mes films à l'époque. Les abonnés qui me suivaient ont commencé à acheter et vouloir des films. Donc, c'est grâce à eux que j'ai pu après avoir des films à montrer et que ça s'est lancé petit à petit.
C'est ce que j'allais te demander, comment tu as fixé tes tarifs? Parce que je sais que c'est un vrai sujet et tout le monde dit j'ai honte de parler de mes tarifs les premières fois. Mais je trouve que ça permet aussi de déculpabiliser les personnes qui se lancent et qui justement ne sont pas encore prêtes à assumer un tarif qui est plus élevé parce qu'elles n'ont rien... Elles n'ont rien à montrer encore et du coup, elles sont un peu stressées par rapport à ça. Et de se dire que tout le monde débarque, enfin en tout cas débute avec des tarifs très très bas au départ.
Oui. Alors moi, je venais du milieu de la télévision. À la télé, on était, j'étais intermittente du spectacle, mais le tarif moyen, c'était à peu près 250 € la journée. Donc je m'étais dit, bon, alors pour les films, 250, à mon avis, je vais faire le tournage qui dure 2 heures. Ensuite, je vais avoir peut-être 2 jours de montage. J'avais fait un tarif arrondi à l'époque, parce que j'ai triplé entre-temps, mais j'avais fait un tarif à 500, je pense. Ensuite, je m'étais dit, non, 500 €, c'est trop cher pour les gens. Donc j'avais fait des offres à 400, à 300 pour les films. Et en fait, c'est en me rendant compte, une fois, j'allais filmer les gens, je rentrais chez moi et en fait, j'avais 3 jours de travail. Après, j'avais les charges, etc. Je me suis rendu compte que j'étais payée moins que quand je faisais des jobs d'été. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, il faut que je fasse un tarif plus élevé. Les offres se sont construites petit à petit, mais j'ai fait la même erreur que beaucoup de gens. J'ai commencé trop bas, je pense.
Ouais, mais je crois qu'on commence tous un peu trop bas. C'est un des premiers trucs que je fais bosser dans mes accompagnements. Il y a une partie chiffres avec justement des tableaux, des charges. Et c'est la partie très pénible où personne n'a envie d'y aller, tu vois. Quand je le vends comme ça, je suis pas sûre que ce soit le truc qui fasse dire aux gens « Ah, super, je vais aller bosser avec Delphine » parce que la partie chiffres, en général, on la fuit. Et pourtant, c'est à ce moment où tu fais une forme de business plan, où tu mets toutes tes charges, combien tu as besoin, toi, par mois pour vivre. Là, tu te dis « Ok, très bien. Donc, avec ça, il faut que j'en vende combien par mois ?» Et là, tu commences à te dire qu'il va falloir que... Voilà, soit tu bosses nuit et jour et tu es esclave de ta propre boîte, soit tu comprends qu'il va falloir que tu augmentes tes tarifs.
C'est ça. J'ai augmenté qu'il y a un an. Là, je suis à 1 300 € le film.
Ce qui ne me choque pas du tout.
Voilà.
Enfin, je trouve ça pas cher par rapport au temps que tu y passes.
C'est ça, parce que les gens ne se rendent pas compte que j'ai 3 jours de montage par film, parce que les films sont longs, parce que je peaufine chaque détail et parce que je viens aussi d'un milieu... de la télé où tout doit être parfait. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à rendre un travail parfait et peaufiné jusqu'au bout. Les gens ne se rendent pas compte de tout ça. Ils pensent que je filme, que j'appuie sur un bouton et que c'est fini. J'ai été obligée de revoir mon tarif parce que aussi, maintenant, je paye la TVA. Tu dis qu'il y a la moitié qui part à l'État déjà direct. Le tarif, c'est un gros sujet, mais en fait, il faudrait que tout le monde s'y penche dès le début. J'avais une phrase qui m'avait vachement interpellée. C'était « Un vendeur de Ferrari » ne peut pas s'acheter une Ferrari. Donc aussi, ne pas avoir peur de faire un tarif que nous-mêmes, on ne pourrait pas être en capacité de payer.
Oui, ce qui est souvent le cas, d'ailleurs.
Oui, souvent, tu te dis, oh, non, mais qui mettrait ça? Attends, je ne pourrais pas, moi, m'acheter mon propre produit. Mais en fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour les autres. Donc,
Ça dépend de ta cible, exactement.
Tu
as une manière, justement, d'amener ton prix que je trouve qui est intéressante. Tu le décortiques dans une forme de tableau pour expliquer justement un peu tous les frais cachés que les gens voient pas. Et je trouve que ça amène beaucoup de transparence et c'est assez aligné avec qui tu es ou en tout cas tout ce que tu dégages quand on te voit sur ton compte et quand on te voit partager ton quotidien. Est-ce que la transparence, c'est une valeur qui est importante pour toi ?
Oui, c'est hyper important parce que justement, je veux que les gens puissent comprendre pourquoi ce prix-là. En effet, du coup, j'ai fait un ticket de caisse et je détaille tout. Donc en bas, on voit le total, 1 300 €. Et puis en fait, quand tu remontes, j'ai marqué tournage, il dure 2 heures, c'est 200 €. Post-production, donc c'est le montage, j'ai mis 22 heures de travail fois 24 € de l'heure, 530 €. Puis après, bon, j'ai fait un peu des blagues dans le ticket. Ensuite, j'ai mis les taxes URSSAF, 299 €, la TVA, 260. Et après, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, mais il y a plein de lignes à 0 €. Le petit côté humain où j'ai marqué que je travaillais le week-end, que c'était 0 €. Ma bonne humeur, 0 €, tout mon amour, etc., etc., etc. Plein de lignes comme ça. Et du coup, c'est vrai que les gens, au début, qui sont frileux quand ils voient mon tarif, le fait de comprendre pourquoi ils payent ce prix-là, pour moi, c'est hyper important de leur expliquer que ce n'est pas juste dans ma poche 1 300 € pour une journée de travail. Non, c'est 3 jours de travail, aussi beaucoup de temps passé, mais aussi d'expertise. Donc ça se paye. Donc voilà, transparence très importante pour moi.
Et je me demande si en B2C, en plus, il y a un côté où quand tu travailles en B2C versus les entreprises, tu es quand même beaucoup dans l'intime. Et je trouve qu'il y a une notion où les gens ont besoin d'avoir confiance.
Bien
et
sûr.
Du coup, ça vient les rassurer aussi sur comment ça s'orchestre, qui est cette personne aussi qui vient dans notre intimité et nous filmer. Et cette notion de transparence et de réassurance, je pense qu'elle aide aussi à inviter quelqu'un chez soi pour capturer notre univers.
Il y a pas mal de gens qui me disent « Voilà, je connaissais un vidéaste dans ma ville. Bon, clairement, il est 3 fois moins cher que toi. Donc, au début, je l'ai contacté, etc. Puis, en fait, je ne me sentais pas hyper à l'aise. Puis, c'était un garçon. Et puis, et en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent « Je préfère économiser et que ce soit toi qui vienne parce qu'en fait, j'ai l'impression de te connaître. » Que tu es une copine qui vient à la maison, ça fait 2 ans qu'on papote sur Instagram. Et ça, c'est hyper important, en effet, la réassurance et le fait de montrer tout ce qui se cache derrière. C'est pas juste une prestation. Je suis pas juste prestataire de service, je suis une humaine, une maman qui vient faire des films chez les gens. Donc, c'est important.
Quand j'entends 2 fois moins cher que toi, je me dis, mais comment ce monsieur se paye? Parce que vraiment, ça ne me semble même pas possible, quoi.
Exactement. Mais après, moi, j'ai déjà fait appel à à des vidéastes trois fois moins chers que moi, justement, pour voir un petit peu... Déjà, parce que je voulais des vidéos de moi et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la vidéo. Et aussi, j'étais curieuse de voir, mais attends, si je paye 300 euros le film, qu'est-ce que je vais avoir comme film ? Eh ben... Spoiler alerte, j'étais super déçue. Et en fait, en même temps, j'étais hyper contente de me dire, bah, en fait, le film n'est pas du tout qualitatif. Et je suis contente de mon tarif, j'assume, je suis peut-être bien plus chère, mais par contre, voilà, c'est la qualité jusqu'au bout.
Ta poésie, surtout.
Merci.
Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire évoluer leur prix, notamment avec des particuliers. Je trouve que tu as toujours un frein qui est plus gros qu'avec des entreprises, parce que tu te dis, tu touches à l'argent directement des gens, ils ne vont pas vouloir investir autant, et si j'augmente mes prix, pour qui je vais être perçue ? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux vidéastes de famille, mais pas que, parce que vous n'êtes pas très nombreux pour l'instant et on en parlera après, mais aussi aux photographes de famille qui, du coup, sont dans ces cas-là et ont du mal parfois à se dire bah, « si, je peux augmenter mes prix ».
Alors, tout d'abord, expliquer oui, bah, combien de temps ça vous prend. Pareil, un photographe, on a l'impression qu'il appuie sur le bouton et que les photos sortent de façon parfaite, mais non, ils ont du temps de retouche, etc. Donc, peut-être... moi, la transparence, c'est vraiment ce que je recommande. Aussi, de soi-même... être sûr de la valeur de ce qu'on apporte. Parce que si nous-mêmes, on n'est pas sûr et qu'on a peur de vendre aux gens, c'est difficile que les gens nous fassent confiance si nous-mêmes, on n'a pas confiance en le tarif qu'on propose. Donc, la transparence et aussi, nous, on ne vend pas juste une prestation. On vend un film ou des photos qui vont durer toute la vie des gens et qui vont prendre de la valeur avec le temps. Je dis, c'est comme un bon vin, en fait. Nos films ou nos photos de nos enfants, ça va prendre de la valeur. Et en fait, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de... Imagine-toi, là, tu retrouves des vidéos, des photos de toi petite, ou même à 8 ans, 10 ans, 12 ans, avec tes parents, avec tes grands-parents. Ça n'a pas de prix. C'est hyper important d'investir. Et je pense que je devrais, moi et même les photographes, devraient encore plus communiquer sur ça, sur la valeur de ce qu'on transmet. C'est pas juste une prestation, c'est un film ou des photos de nos enfants. C'est hyper important.
Ouais, et qui se transmettent. Il y a une notion de transmission, je trouve, justement, de se dire qu'ils pourront le voir plus tard, qu'ils pourront le partager aussi potentiellement à leurs propres enfants. Enfin, c'est quelque chose qui perdure dans le temps.
Exactement, qui dure toute la vie. Donc, c'est important de savoir que quand les gens achètent, ils achètent pour toute leur vie. Donc, on devrait être encore plus cher.
Toi qui, justement, as travaillé pour des gros studios télévisés, c'est quoi la plus grosse différence entre ton métier d'avant, puisque tu faisais déjà de la vidéo, et celui d'aujourd'hui?
Alors, la plus grosse différence, c'est qu'avant, je travaillais pour de l'audience. Par exemple, j'avais beau faire des documentaires magnifiques pour France 2. Il fallait que ma vidéo soit vue tant de millions de fois et que ça fasse une grosse audience. Et c'est comme ça que j'étais un peu... on disait que c'était un bon ou un mauvais reportage. Et pour peu que tu passes, il y a un match de football, une finale le même soir, ton reportage, il n'était pas hyper vu, on te disait que c'était de la merde, quoi. Donc la différence, c'est ça, c'est le côté audience, VS, faire des souvenirs heureux pour les gens. Je pense que c'est la plus grosse différence. Et bon, après, n'en parlons pas, j'ai pas du tout le même quotidien, beaucoup moins de pression parce que j'ai personne au-dessus de moi. Et je dis ça, moi j'ai adoré bosser à la télé, c'était vraiment génial, mais c'est vrai que là, je suis vachement plus alignée avec les films que je fais qui rendent les gens heureux.
Et si je te demandais ton plus gros challenge dans ton métier actuel, ce serait quoi ?
J'en ai plein, des challenges. Je pense que le plus gros, ce serait de savoir couper. Tu sais, quand tu pars en vacances et que tu as du mal à couper, ou quand tu te couches le soir et que tu as du mal à couper parce que tu penses à plein d'idées. Donc c'est peut-être ça, c'est de trouver l'équilibre pro-perso. Pour moi, c'est la base.
Ouais, la notion de sommeil et de savoir faire des pauses est effectivement assez importante en entrepreneuriat et c'est un vrai sujet.
Donc c'est hyper important aussi si tu veux... durer dans la longueur, quoi. Il faut savoir poser ses limites dès le début.
Et la chose que tu préfères dans ton métier actuel ?
Me dire que les films que je fais vont rester toute la vie des gens. Et me dire que quand les enfants que je filme, là, qui ont 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, me dire que quand ils auront 33 ans, qu'ils auront mon âge, ils auront la possibilité de se voir petits avec leurs parents. Ils auront la possibilité de voir leur chambre de quand ils étaient petits, leur maison d'enfance, parce qu'ils auront peut-être déménagé. Et probablement, ils auront déménagé. Enfin, voilà, je me réveille le matin et je me dis, je fais des films qui rendent les gens heureux, qui vont rester. Voilà. Même si j'étais millionnaire, je continuerai à faire ça. Bientôt, bientôt.
On connaît beaucoup la photographie de famille, mais on connaît très peu la vidéo. Tu me le disais en off avant, quand tu t'es lancée, vous étiez peut-être 2 ou 3. C'était une bonne prise de risque quand même sur ton secteur et finalement assez innovant. Est-ce que tu as pu en vivre dès le départ, de faire uniquement de la vidéo de famille, ou est-ce que tu as composé au départ avec d'autres choses? Par exemple, il me semble que tu as fait des films de mariage. Et depuis combien de temps, du coup, tu peux te consacrer uniquement à cette partie-là parce que tu as réussi à éduquer ton marché, comme on dit, qui fait que la vidéo commence à devenir une part aussi importante que la photo?
C'est vrai que quand j'ai commencé, donc j'avais regardé ce qui se faisait en France. Il y avait 3-4 vidéastes de famille spécialisés en famille. Parce qu'en fait, la plupart des autres vidéastes faisaient du mariage en priorité. Ou alors toute la saison des mariages faisait des mariages et un peu de famille pendant la saison creuse des mariages. Et moi, je me disais, mais voilà, je veux faire de la vidéo de famille. Allez, Mais ce qui était compliqué, c'est que les gens n'allaient pas chercher dans Google film de famille. Et encore aujourd'hui, 3 ans après, les gens que je rencontre... sont hyper étonnés du métier que je fais. Ah bon, vidéo? Mais non, photo. Donc, t'es photographe? Non, je fais de la vidéo. Ah bon, mais c'est quoi la vidéo de famille? Donc, ils vont pas aller d'eux-mêmes chercher dans Google. Donc, c'est à moi, comme tu dis, de les éduquer, de leur montrer, de leur mettre sous les yeux. Ça existe. Je peux te filmer en famille, faire des photos en mouvement, en fait. Donc, au début, on était très peu nombreux et je me disais, je vais jamais réussir à faire que de la vidéo de famille. Et d'ailleurs, j'en vendais pas autant que j'aurais voulu. Du coup, en effet, je proposais le mariage aussi. Je voulais aussi aider les entrepreneurs à avoir des belles vidéos. Donc, je m'étais dit, c'est génial, je fais plein de choses. Je vais faire des vidéos pour les entrepreneurs, des films de famille et des films de mariage. Et je m'étais dit, c'est chouette parce que je vais pouvoir toucher plein de gens. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était un frein parce que justement, quand tu essaies de toucher plein de gens, c'est dur de se faire connaître et en mariage, et en famille, et en entrepreneuriat. Donc, petit à petit... je me suis posé les bonnes questions. La première question que je me suis posée, c'est quoi qui me fait kiffer? C'est quoi, s'il n'y avait pas une histoire financière, qu'est-ce que je ferais? Et là, c'était, je ferais que des films de famille. Donc, j'ai commencé à arrêter les films pour les entrepreneurs ou les grosses marques, qui pourtant, c'était ce qui me rapportait le plus d'argent. En fait, les films de famille, c'est ce qui me rapporte le moins, mais c'est ce qui me fait le plus kiffer. Donc voilà. Et après, petit à petit, les mariages aussi, j'ai arrêté. Et j'avais très, très envie de me nicher et d'être connue que comme vidéaste de famille. C'était une volonté aussi.
Ce qui est la clé, même si au début, ça nous semble très contre-intuitif et qu'on a tendance à se dire, justement, si je fais plein de choses, je vais avoir plus d'argent. Alors qu'effectivement, plus on se niche, plus on est connu et plus on vient nous chercher pour cette expertise-là.
Oui, parce que j'avais plein d'offres. En mariage, j'avais 3 offres différentes. Les vidéos pour les entrepreneurs, j'avais 3 offres. Les vidéos pour les grosses marques, c'était des devis sur mesure. Les films de famille, il y avait plusieurs offres. Et ça n'en finissait jamais. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs offres, j'en ai 3, mais c'est que autour de la vidéo de famille.
Oui, et puis le problème, c'est que plus on a d'offres, moins de clients s'y retrouvent et en général, ils ne savent pas laquelle choisir. Et du coup, ils se noient un peu dans notre truc et on a beaucoup plus de chances qu'ils finissent par quitter notre site. Alors que plus c'est lisible, plus on a de chances qu'ils cliquent sur l'une d'entre elles.
Mais c'est un risque à prendre parce qu'au début, tu te dis, comme les gens ne vont pas venir me chercher, c'est quand même plus confortable si je propose plein de choses. Et en fait, non. et aussi, l'année où j'ai arrêté les mariages, j'ai pris un risque parce que les mariages, ce qui était pratique, c'est que je l'ai booké 1 ou 2 ans en avance, donc j'avais déjà une idée de mon chiffre d'affaires un peu en avance. Là, quand j'ai arrêté, c'était prise de risque, mais en même temps, je me suis dit que si j'arrêtais ce qui ne me faisait pas vibrer, ça allait me laisser plus de place pour ce qui me faisait kiffer. Et voilà, la clé de tout.
Et aujourd'hui, tu es contente de ton choix?
Super contente, oui, et de plus en plus, j'ai fait le bon choix. Voilà, ça a mis du temps, mais ça aura pris 2 ans et demi, mais là, je suis à ma place.
2 ans et demi, c'est pas si long que ça. Hein.
Oui, ça va. Je me suis vite faite accompagner, en fait. Je me suis vite faite coacher. Grâce au podcast, en fait, j'ai écouté plein de podcasts et c'est les gens qui racontaient si je devais tout recommencer à zéro, je ferais quoi? Ou comment j'ai atteint 1 million de chiffre d'affaires? Tu sais, des gens qui sont passés par là, qui te donnent des clés. Et la première, c'était quelqu'un qui disait je me suis faite accompagner, je me suis faite coacher, ça a changé ma vie. J'ai regardé mon compte en banque, j'ai fait OK, allez, go! C'est un investissement pour... tu sais, j'imagine le petit smiley fusé, là. C'est un investissement de départ pour décoller.
C'était une de mes questions de fin, parce que tu en parles souvent. Tu dis souvent que sur tes 2 premières années, justement, tout ce que tu gagnais, tu le réinvestissais pour grossir plus vite. Et que pour toi, c'était important et c'est ce qui t'avait permis de croître et de gagner cette visibilité-là. Tu penses que ça t'a aidé, justement, à venir te positionner sur un segment C'est quelque chose que tu recommanderais ?
En fait, soit tu avances tout doucement, petit à petit, pas à pas, donc c'est très bien aussi, mais ça pourrait mettre, je sais pas, 5 ans, 6 ans à décoller. Moi, on m'avait dit, tu vas voir, les 3 premières années, elles sont fatidiques, soit ça passe, soit ça casse. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre toutes mes chances de côté, je vais tout donner les 3 premières années pour voir si, en fait, si je continue ou si je retourne bosser à la télé où j'avais un, voilà, une vie confortable. Et c'était important pour moi de tenter. Et en fait, quand je me suis mise dans cette démarche de me faire accompagner, donc coacher, après j'ai pris des stagiaires, après j'ai pris une alternante, etc. Finalement, je me suis dit que ça me plaisait de pas être toute seule. Au début, j'avais un peu le syndrome de je voulais tout faire toute seule parce que j'avais l'impression que j'allais avoir plus de mérite. Waouh, elle fait tout toute seule, elle fait tout. Et je me voyais vraiment pas avoir une équipe du tout, du tout, du tout. Plus je me suis fait accompagner par des gens, par des pros, plus je me suis dit mais c'est génial parce qu'en fait tout le monde m'aide et tout le monde y retrouve son compte. Et donc oui, c'est un conseil que je donnerais de se faire accompagner. Et bon, notamment, il y a des choses que j'aimais pas faire dans ma journée. J'aimais pas trop, je sais pas, faire des devis, relancer les gens pour qu'ils me payent, etc. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui m'aidait à faire toute cette partie un peu chiante de mon métier et de pouvoir déléguer des choses qui me plaisent pas à des gens qui savent le faire. Bah, ça me permet de me dégager plus de temps pour faire uniquement ce que j'aime faire.
Ouais, ça, la délégation, je trouve que il y a un moment où c'est un cap à passer et vraiment psychologique, et je conseille toujours de le passer au moment où t'es pas encore complètement prête, parce que souvent c'est quand on anticipe cette partie-là qu'au moment où ça s'accélère, bah t'as déjà quelqu'un qui t'aide. Mais c'est souvent quand t'es indépendante, t'as un vrai cap à passer au départ, de se dire bah je suis plus toute seule et je vais apprendre à quelqu'un d'autre, je vais donner cette partie-là et c'est plus mon bébé uniquement à moi. Comment t'as recruté toi ton premier
Alors au début, les premières personnes que j'ai recrutées c'était des stagiaires en communication, en sachant que pour les auditeurs, si tu prends des stagiaires de moins de 2 mois, c'est gratuit. Bon, souvent ce sont des élèves qui ont 18 ans, donc tu peux pas attendre d'eux qu'ils aient la même performance que des freelances qui ont déjà de l'expérience. Mais donc je me suis fait aider pour mon compte Instagram. Finalement, ça m'a apporté des choses parce que je disais ah, tiens, cette semaine il faudrait qu'on poste 4 trucs, 4 vidéos. Donc voilà, ça m'a aidé. J'ai pris 3 fois des stagiaires en communication.
Tu les as trouvés comment ?
Je les ai trouvés sur Facebook et sur LinkedIn en tapant. J'allais voir les écoles de communication, notamment il y a l'ISCOM, Subdecom, et j'allais voir quand est-ce qu'étaient leurs stages et je contactais les écoles directement. La deuxième chose que j'ai déléguée, c'était j'ai pris une assistante virtuelle qui m'aidait à faire tout ce que j'aimais pas. Changer mon adresse sur le site des impôts. Enfin voilà, tous les trucs que je procrastinais parce que je détestais ça et qui m'a fait tout ça, remettre toutes mes factures à jour, etc. Donc ça, c'était une belle aide aussi. Et puis à chaque fois, c'est les freelances, donc ça coûte 300 euros par-ci, par-là, mais en fait, ça te permet de dégager du temps, donc ça n'a pas de prix, entre guillemets. Et l'an dernier, quelqu'un m'a dit « Mais tu voudrais pas avoir quelqu'un en montage ?» Et j'avais dit « Non, jamais, jamais je déléguerai cette partie-là. » Et en fait, bah, l'idée a germé et je me suis faite d'abord accompagner d'un stagiaire qui venait de mon école et qui était formé par mes professeurs de l'époque. Donc, incroyable. Et cette année, je me suis lancée, j'ai pris une alternante.
Et alors, est-ce que c'est dur de déléguer une des parties que t'aimes le plus ?
Alors, je délègue pas tout. Finalement, on a trouvé un super rythme de croisière où je délègue. Dans le montage vidéo, il y a beaucoup de techniques. Avant de faire le montage, il faut trier les vidéos, il faut mettre à la poubelle tout ce qui est flou, etc. Donc toute cette partie technique, j'ai pu la déléguer. Je délègue aussi la fin de la vidéo, recadrer les plans, remettre les horizons droits, faire le montage du son, etc. Tous les endroits où j'ai pas de valeur ajoutée. Et aussi, on fait plus de reels ou de petites vidéos, voilà, un peu bonus. Je fais aussi pas mal de vidéos bonus pour mes meilleurs clients. Ceux qui font appel à moi, il y a des gens qui ont déjà fait appel à moi 5, 6, 7 fois. Du coup, je leur fais des vidéos de l'évolution de leurs enfants, et ça, c'est mon alternante qui les fait.
Tu as aussi, d'une certaine manière, recruté une photographe, ou en tout cas, tu l'as intégrée à ton équipe Croco Maman pour proposer une offre supplémentaire qui est de la photo de famille. Je trouve ça hyper intéressant de se dire bah, je développe une plus grosse partie, je viens chercher quelqu'un qui est expert en son métier et qui vient, sous le nom Croco Maman, apporter quelque chose de supplémentaire. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Comment tu trouves la personne qui, du coup, j'imagine, est indépendante de son côté ? Parce que je pense que ça va intéresser plein de personnes qui travaillent justement dans des studios, que ce soit des photographes ou autres, qui ont besoin de grossir et qui viennent agrandir leurs équipes en passant par d'autres freelances. Quel est l'avantage pour les personnes à rejoindre, par exemple, une entité comme Croco Maman ?
En fait, déjà, je me suis posé une question. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux pour Croco Maman, et dans ma tête j'imaginais une sorte de format agence, c'est-à-dire que je m'imaginais faire des vidéos, Mais j'imaginais aussi des gens qui puissent faire des photos, j'imaginais des gens qui puissent faire des albums photos, quelqu'un qui puisse faire les vidéos à partir des vidéos de téléphone des gens. Enfin, j'imaginais comment rendre service à mes clients. Qu'est-ce que les gens qui sont parents, ils auraient besoin de quoi en fait ? Donc ils auraient besoin de vidéos, ils auraient besoin de photos, certains auraient besoin qu'on leur fasse leurs albums photos parce qu'ils ont la flemme, etc. Et donc dans ma tête, je m'étais dit, ah mais il faudrait que je rajoute de la photo à mes offres. Mais moi, personnellement, je ne sais pas faire de photos. Et puis, j'avais peur de me former en photo et après qu'on me demande que de la photo et plus faire de vidéos et perdre ma passion qui est vraiment 100% vidéo. Donc, je m'étais dit, il me faut une photographe. Et après, ça s'est fait au coup de cœur. J'ai déjà proposé à une personne il y a quelques années. Enfin, j'avais déjà pensé à elle. C'est une vidéaste qui faisait aussi de la photo, mais elle n'était pas trop partante. Et un jour, j'ai rencontré une photographe dans mon club d'entrepreneurs de ma ville. Et là, gros coup de cœur. Et je me suis dit, c'est elle. Et en fait, comment ça se passe? Elle est photographe à son compte. Si mes clients ont besoin de photos, je l'ai dit de la contacter. Elle, si elle est disponible, elle prend le projet. Si elle n'est pas dispo, elle est vraiment super libre. Et elle fait son tarif. Comme ça, pour elle, c'est tout transparent. Elle a des clients qui lui arrivent sans trop bosser. Et moi, je me prends une commission par-dessus.
C'est ce que j'allais te demander, voilà. Si c'était du coup de l'apport d'affaires ou...
Non, moi, c'est vraiment, elle fait son tarif. Je me prends une commission par-dessus que je facture au client. Mais par contre, on a fait une offre qui était avantageuse pour les clients avec une galerie photo complète, on offre un album photo, enfin on fait toute une expérience sympa qui donne envie aux clients de faire appel aux photos by Croco Maman plutôt que par une autre photographe.
Et en parallèle de ça, dans l'autre sens, du coup, tu as lancé une académie pour former des personnes à la vidéo. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre aussi que ton domaine est en train d'évoluer, que la demande commence à arriver, ce qui fait que d'autres professionnels se disent « il faut que j'ajoute cette corde-là à mon arc » et eux, pour le coup, vont aller se former. Quel profil tu as dans cette académie pour se former à la vidéo? Est-ce que c'est des photographes qui veulent ajouter une corde à leur arc? Est-ce que c'est des personnes qui se reconvertissent et qui ont envie justement de faire uniquement de la vidéo comme toi?
Alors, super question. Quand j'ai lancé Croco Maman, je disais on était 3 vidéastes en France à faire que ça. Et je trouvais pas ça normal. Je me disais, mais c'est pas possible. Aux États-Unis, il y a des milliers de vidéastes. Et nous, en France, ça n'existe pas. Donc, je m'étais dit, il faudrait que je forme des gens à faire la même chose que moi, à faire de la vidéo pour que ça se développe. Et j'avais vraiment envie que les gens en France, les familles, aient des photos, mais aussi de la vidéo. Et donc, je me suis dit, mais si je formais des gens. Puis en plus, il y avait des gens qui m'avaient déjà contacté. Ah, tu pourrais pas me former à la vidéo, etc. Donc, au bout de 3 personnes, je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être intéresser. Et je me suis lancée, j'ai lancé la Croco Academy. Pour la petite anecdote, j'ai vendu ça en 4 heures, mais j'ai vendu 6 places à 2000 euros en 4 heures la première fois. Voilà, ce sont que des photographes professionnels qui, en effet, veulent souvent rajouter une prestation à leurs offres, enfin, qui sont photographes et qui resteront photographes, mais qui se rendent compte qu'aussi la vidéo, c'est sympa et qui veulent pouvoir proposer de la vidéo à leurs clients. De plus en plus, on me contacte donc des gens qui n'ont jamais fait de photos ou de vidéos et qui veulent se lancer, qui trouvent que c'est chouette, voilà, les films de famille, qui restent lancés à 100%, mais je leur dis d'abord, il faut que tu puisses savoir faire de la photo, maîtriser ton boîtier, parce que nous, moi, je forme des gens qui savent déjà se servir de leur appareil photo, etc. Et de plus en plus aussi, ce sont des photographes qui se rendent compte que la vidéo les passionne et qui sont en train plus de devenir vidéastes que photographes. Et puis aussi, il y a des photographes qui font ça pour le plaisir, juste pour le plaisir de pouvoir après filmer leurs propres enfants. Ils n'ont pas forcément envie de faire des nouvelles offres, mais ils ont envie pour eux d'apprendre à savoir faire du montage de la vidéo.
Je trouve ça impressionnant dans le sens où je te l'avais dit quand on en avait discuté. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans les profils que je vais chercher, c'est justement des personnes qui construisent un écosystème, qui partent de leur métier d'origine et qui développent plein de choses, un peu comme une étoile autour de ce métier d'origine qui fait qu'à la fin, ça crée un écosystème global et qu'on construit quelque chose qui a un impact beaucoup plus grand que juste notre petite personne. Comment tu lui as donné vie? Enfin, tu vois, quand tu as eu cette idée, tu t'es dit « Ah tiens, il y a quand même plusieurs personnes qui sont intéressées parce que du coup, tu loues une maison. Oui. » Est-ce que tu avais cette idée dans la tête? Enfin, comment tu as trouvé le lieu? Est-ce que... Enfin, il y a quand même... En général, quand on a ce genre d'idée, on se dit « Ah super, je ferais bien ça. » Et puis après, il y a une espèce de phase de... c'est beaucoup que... quand même. Et du coup, qu'est-ce que je fais, quoi? Où est-ce que je trouve? Toi, c'est proche de Paris. Je trouve ça hyper chouette parce que du coup, tu n'es pas très loin. Et en même temps, vous êtes quand même dans une espèce de cocon pendant plusieurs jours.
C'est ça, mais c'est marrant parce que tu me poses la question et je me dis, mais je ne sais même plus comment j'ai fait ça. Je n'avais pas d'idée derrière la tête. C'est vrai qu'en faisant la première formation, je me suis dit, mais c'était génial, je vais en refaire une deuxième. Et puis finalement, je vais bientôt lancer la cinquième. Donc c'est un truc de fou. Moi, j'avais envie de transmettre aux gens mon métier passion. C'est vrai que moi, j'ai travaillé pendant 11 ans, ou enfin 10 ans et demi, ça change tout, à la télévision avant. Et je fais du montage depuis que j'ai 12 ans, donc je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et surtout, dans chaque émission dans laquelle je travaillais, tu as toujours des méthodes de travail différentes. Et à la fin, j'ai créé ma propre méthode. Donc, c'est ma propre méthode que j'apprends aux gens. L'idée de départ, c'est que j'avais envie de transmettre. Et pourtant, je suis la fille un peu timide où je ne pensais pas qu'un jour, je transmettrais à des gens, à 6 personnes en même temps qui viennent... Parce que c'est Croco Maman qui fait une formation. Il n'y a pas longtemps, ça fait que 15 jours, je t'avoue, je suis un petit peu chamboulée. Quelqu'un m'a dit, mais c'est quoi ta vision? Tu sais, on a parlé de vision. Et qu'est-ce que tu veux pour dans 10 ans, en gros? Parce qu'au début, je m'étais dit, moi, ce que je veux, c'est que le plus de familles en France aient leurs films. Ils m'ont dit, oui, mais tu ne vas pas pouvoir filmer tout le monde. Donc j'ai dit, oui, mais c'est pour ça que je forme des gens à filmer aussi, pour que les gens puissent filmer les familles de leur côté. Et là, il y a 15 jours, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce ne serait pas les vidéastes que je forme qui feraient partie de Croco Maman après, où je pourrais étendre Croco Maman partout en France? J'ai, d'un coup, là, je me suis dit, mais attends, il faudrait que je réfléchisse vraiment à ce que je veux, mais j'imagine vraiment, comme tu disais, un écosystème. Moi, j'imagine ça comme une île principale. Tu as une île, les films de famille, et en fait, à chaque fois, tu as des petits ponts qui t'amènent sur d'autres îles. Donc, il y a 2 ans, j'ai lancé une prestation, c'est les films à partir des vidéos de téléphone des gens. J'ai une autre île, c'est les formations pour les photographes. J'ai aussi plein de goodies. Tu vois, j'ai une petite île, c'est toutes mes goodies que j'offre aux clients. Toi, tu parles d'écosystème, mais moi, j'imagine mes petites îles. Et le but principal, c'est quand même le service rendu aux familles. Tu vois, c'est pas dans un esprit d'avoir plus d'argent ou quoi. C'est vraiment de me dire, qu'est-ce qui... Moi, si j'étais là, maman, j'aurais besoin de quoi? Et c'est vraiment de créer quelque chose qui puisse aider les gens. Et petit à petit, j'ai des idées qui viennent, plouc, plouc, qui pullulent.
Quand je t'ai parlé d'écosystème, tu m'as envoyé une photo de la Disney Map que j'adore. Est-ce que tu veux expliquer un peu justement en quoi ça vient rejoindre ta vision de ces petites îles?
C'est ça. Si vous regardez sur Internet, si vous tapez Disney Map, donc je crois qu'on voit les films Walt Disney au milieu. Walt Disney qui crée ses histoires. Et en fait, après, il y a un petit trait qui amène à une autre, comme une petite île. On voit le parc Disneyland. Et finalement, après, il y a une autre petite île, c'est les goodies Disney. Après, il y a tous les films Disney. Et c'est comment, à partir d'une seule idée, on peut la développer et créer plein d'offres qui découlent de la première idée.
Elle est incroyable, moi, cette carte. Elle est tellement complexe et il l'avait dessinée à l'époque quand il a commencé à se lancer. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est encore utilisée maintenant de partout, justement, pour te dire comment je développe à partir de mon idée originale tout mon écosystème ou tout mon...
Et c'est passionnant parce que bon, Disney, c'est énorme. Ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de très grand. Et je n'ai même pas tout regardé. Je pense qu'il y a encore plein de choses à explorer sur cette carte.
À un moment, il parle des musiques et en fait, il voulait que les musiques, justement, restent dans la tête des gens pour que les enfants s'en souviennent et que du coup, derrière, ils aillent acheter des choses en lien avec la musique, soit des CD, soit des goodies. Enfin, vraiment, tout était pensé de façon ultra stratégique.
Hakuna Matata.
Mais ça marche hyper bien. Ou alors, et du coup, il avait un vrai intérêt. Il fallait que les chansons deviennent addictives.
Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a le théâtre Mogador qui fait les spectacles Disney. Si vous voulez que je vous gâche votre journée, je peux vous mettre la chanson des poupées de Disneyland dans la tête. Bonne journée.
J'ai hâte de voir quelles vont être les prochaines qui vont créer leur Disney Map, du coup.
Oui, sans chanson, c'est vraiment passionnant.
Il y a une chose que j'adore chez toi, c'est que tu es à la fois très douce et poétique, en même temps très ambitieuse et déterminée. Et on a souvent tendance à opposer les deux premiers adjectifs aux deux derniers. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie d'amener une nouvelle vision et de montrer qu'en fait, les deux peuvent très bien fonctionner ensemble. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que tu es dans un métier qu'on pourrait qualifier d'artistique et on a toujours cette espèce de vision très old school de toute façon, on ne peut pas faire une entreprise rentable si on veut faire de l'artistique. Et tu prouves tout le contraire.
C'est vrai que si on m'avait dit il y a quelques années que je serais ambitieuse, j'aurais dit non. J'ai jamais été ambitieuse à la télévision, on monte un peu les échelons. Et puis moi, j'avais plutôt envie d'être confortable et pas trop penser à... Je les ai vite montées les premières années et après j'ai stagné, j'avais pas envie d'aller plus loin. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai de l'ambition pour Croco Maman. En effet, c'est C'est la première fois de ma vie que j'ai de l'ambition pour Croco Maman. Mais c'est pas négatif, tu vois, c'est pas ambition négative, c'est juste que j'ai envie de me construire ma vie de rêve et que je me rends compte qu'il y a des gens qui arrivent et du coup, j'ai envie de me donner les moyens. Je vois ce petit smiley fusé là, j'ai envie d'aller super loin et je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, tu vois, j'ai envie de me faire ma petite vie de rêve. Après, ça n'empêche que je suis quelqu'un d'hyper doux et... En fait, on peut être ambitieux et doux, respectueux... Moi, je suis un peu la Amélie Poulain. Je fais craquer mon pain quand je vais à la boulangerie. J'ai une vie très slow aussi. Mais en même temps, j'ai tellement d'idées et j'ai envie de me dire que tout est possible. Et à chaque idée, je me dis, bah, OK, je décortique. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour réussir ça? Et puis en fait, c'est vraiment petit à petit. Les gens, ils ont l'impression que je fais tout très vite et que j'ai de la chance. Mais en fait, non, je liste plein de... J'ai des to-do list dans tous les sens. Je fais vraiment petit à petit. Et en fait, tu te rends compte que pas à pas, bah, il se passe pas mal de choses.
C'est beaucoup de régularité et de persévérance, le succès.
C'est ça.
Plus qu'une certaine forme de célébrité à un moment donné. C'est vraiment, tu construis et au bout d'un moment, tu as les effets cumulés de tout ce que tu as planté depuis des années qui font effet. Et je trouve ça beau. Moi, justement, j'adore cette notion de se dire bah, on peut être très ambitieux et de manière très saine. Et tu vois, tu dis, je ne sais même pas exactement d'où ça vient, mais j'ai très envie, j'ai plein d'idées. Je crois que quand on est porté par quelque chose qui est plus grand que toi, et toi aujourd'hui, c'est le fait de créer ces souvenirs-là pour les familles. Et on sent que tu es passionnée quand on parle et que pour toi, c'est un truc qui est incroyable d'offrir ça, à
exactement.
Ces familles-là et te dire, bah, du coup, il faut que je développe pour encore plus de familles parce que
c'est ça.
Celles pour qui je le fais, elles sont tellement heureuses que je vais amener du bonheur partout presque. Tu
mais
vois.
En plus, je suis sûre que s'il y a des clientes qui écoutent, elles comprendront. Je ne suis pas du tout un requin de la vente. Je suis vachement dans l'humain. Quand je te dis que j'ai l'impression que les gens, je leur fais un cadeau, c'est vrai. Tu vois. À la fois, je suis ambitieuse parce que j'ai envie de créer plein d'offres pour faire plaisir aux gens, mais c'est pas trop dans une dynamique d'arnaquer les gens pour avoir plein d'argent, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça me drive ça, de me dire que je fais des films qui rendent les gens heureux, donc cette ambition elle est géniale, tu vois, c'est pas, je te dis, je vends pas des trucs horribles aux gens, donc
Et c'est
voilà.
Pour ça, le
j'assume.
Mot ambition, il est souvent corrélé à des choses mauvaises, notamment sur la partie féminine, une femme ambitieuse, il y a toujours une espèce de connotation un peu... On a tendance à se dire « Ah, quoi, comment, elle va écraser les autres ?» Alors que pas du tout. Et c'est ce que je dis toujours, si à un moment donné, tu veux changer les choses, changer le monde, t'es obligée d'être ambitieuse sur tes propres sujets pour qu'ils voient le jour.
C'est ça. Et parfois, j'avoue qu'il y a des matins où je me réveille, je me dis « Hop, à quoi bon ?» Tu sais, parfois, t'as aussi envie d'avoir une vie très cool. Donc, j'essaye aussi de trouver l'équilibre entre « Je suis ambitieuse, j'ai plein d'idées, je mets tout en place. » Et aussi ma vie de famille qui est le plus important. Donc j'essaie vraiment de trouver cet équilibre. Et ça m'arrive souvent de me poser la question, qu'est-ce que je veux ? Pour pas non plus avancer dans une direction que j'avais pas vraiment prévu d'atteindre. Donc on en parle beaucoup, c'est vraiment des sujets de couple aussi. Moi je veux pas bosser plus en fait. Je veux faire plus de choses, mais je veux pas bosser 15 heures par jour. Je l'ai fait au début et... Donc c'est aussi trouver un équilibre de vie, se dire qu'est-ce que je veux pour mon futur. Donc c'est beaucoup de remise en question en permanence.
Je trouve que tu pointes un point intéressant et ça m'est souvent arrivé de l'avoir en entretien avec des clientes qui ont des visées, en tout cas une espèce d'objectif de chiffre d'affaires qui te semble assez incroyable si tu l'atteins. Et où en fait, quand tu commences à décortiquer tout ce que tu vas devoir mettre en place et quel rythme de vie tu vas avoir si tu veux atteindre ce chiffre-là, bah, tu te rends compte que ça peut être décorrélé finalement de ce que toi, tu as envie comme quotidien et comme équilibre vie pro-vie perso et que finalement, cette espèce de rêve-là, c'est peut-être pas le tien à toi et c'est peut-être celui que la société valorise, mais que c'est pas le quotidien que tu veux avoir. Donc, je trouve ça chouette, cette notion de se dire bah, je me repose régulièrement la question de qu'est-ce que je veux.
C'est ça. On dit souvent que le projet ou l'idée du projet, c'est 10%. Bon, je sais pas si c'est en pourcentage, mais et qu'après, 90%, c'est le travail. Donc, il y a plein de gens qui ont plein d'idées, qui veulent, je ne sais pas, monter un café poussette, un truc super. Et après, par contre, l'idée, elle est géniale. Mais après, il faut bosser, quoi. Et moi, bah, j'ai l'idée et parfois, je bosse à 90%. Mais parfois, je me dis aussi, ouais, voilà, faut faire attention et trouver l'équilibre. Et je n'ai pas envie d'avoir une vie pire que quand j'étais à la télé où je bossais 12 heures par jour. Tu vois, je veux aussi me construire ma vie de rêve. Et ça passe par se poser les bonnes questions. Alors, soit tu pars de combien tu veux gagner et comment tu construis tes offres, etc. Moi, je pars pas de l'argent, je pars plutôt de qu'est-ce que je veux dans mon quotidien. Qu'est-ce que je veux ? Donc, moi, je veux commencer à bosser à 9h30-10h, je vais aller chercher ma fille à l'école. Enfin, tu vois, je me pose des questions dans l'autre sens. Ce serait quoi ma vie de rêve et comment je fais pour l'atteindre?
En 2022, il y a M6 qui est venu te filmer chez toi. Je ne sais pas si c'était dans les plans de la vie de rêve, mais concrètement, quand on reçoit cet appel, il se passe quoi?
Clara, est-ce que tu es dispo? Waouh, je me suis dit, non mais c'est, je rêve ou quoi? M6 veut faire un reportage sur les films de famille. Alors tout de suite, bah, j'ai hurlé de joie, sauté de joie. Et après aussi, comme avant, je travaillais au journal télévisé de France 2, je ne me suis pas fait non plus trop de films parce que je sais qu'on n'a pas le droit de faire de la pub directe. Donc je sais que forcément, ils allaient parler d'autres personnes dans le reportage, que ça allait peut-être être 1 minute 30 et qu'ils n'allaient pas forcément donner mon nom. Donc à la fois, je me suis dit c'est chouette, mais je ne suis pas sûre que ça a vraiment m'apporté des choses. Et j'ai senti une fierté quand même, si c'est venu me faire filmer, qu'il y a M6 qui s'est garé dans ma cour. des voisins qui m'ont dit... voilà, mais par contre, j'avoue avoir été un peu déçue sur les retombées parce qu'en effet, il y a juste eu marqué croco maman pendant une de mes interviews, mais pendant 4 secondes. Voilà, le reportage a été vu énormément de fois. J'ai pas eu d'abonnés, j'ai pas eu de vente puisque les gens ne savaient pas qui était dans le reportage. Donc, j'ai eu une personne qui m'a contactée via M6 et qui a dû aller sur le site qui m'a retrouvée. Enfin, c'était voilà, la retombée un peu décevante, mais forcément, bah. Je suis fière et je l'ai mis en premier dans mes épingles de Instagram parce que forcément, ça apporte un peu de légitimité. Tu te dis, les gens qui viennent sur mon site, même s'ils ne sont pas trop convaincus, d'un coup, ils voient « Oh, il y a M6 !»« Ah bon, c'est bon, je peux lui faire confiance. »
Exactement. C'est tout le podcast que tu vas écouter cet après-midi sur le terme de l'autorité.
Ah,
c'est
génial.
Exactement ça. Ouais. C'est que l'autorité, finalement, sur le principe même, notamment sur les gros médias, c'est pas forcément là où tu as le plus de retombées en termes de vente. Toi, tu le savais en amont, donc du coup, tu t'es pas non plus trop emballé. Par contre, en termes d'autorité, sur le long terme, ça vient apporter une preuve de confiance supplémentaire qui fait que tu as moins besoin de convaincre quelqu'un qui débarque sur ta page Instagram parce que c'est comme s'il y avait déjà une espèce de tampon qui disait « vous pouvez lui faire confiance ».
Bah, c'est vrai, hein, mais ce serait pareil pour nous en tant que client. Si tu veux faire appel à quelqu'un que tu vois que George Clooney a acheté son produit, tu es là « ah bah c'est bon, Julia Roberts est allée chez ce coiffeur ». Tout de suite, tu te dis « c'est bête, mais en fait, ça, c'est hyper important ».
Qu'est-ce que ça t'a fait de passer derrière la caméra ?
Je n'étais pas très à l'aise, mais en même temps... En même temps, je filmais une famille de ma ville à Saint-Germain-en-Laye que j'avais déjà rencontrée. Donc, j'ai fait mon travail comme d'habitude et j'ai oublié la caméra.
Quelles sont les prochaines ambitions pour Croco Maman ? Qu'est-ce que tu peux nous partager ?
Moi, il n'y a rien qui est secret. Après, tout ce que je dis là en fin 2023, ça aura peut-être évolué parce que souvent, j'ai des idées, mais soit je ne les mets pas en place tout de suite parce que... Il y a un petit peu le côté flemme de se bousculer. Mon ambition, et ça, voilà, c'est arrivé avec ma nouvelle vision que j'ai eue il y a 15 jours, ce serait de développer plus la prestation film à partir des vidéos de téléphone des gens. Parce que je me rends compte qu'il y a un réel besoin. Les gens, on filme tous nos enfants avec le téléphone et en fait, on ne fait pas de montage. Et j'aimerais vraiment développer cette offre-là. Et mon idée, ce serait de la développer et d'avoir des gens qui travaillent pour moi là-dessus pour que moi, je puisse me concentrer sur les films de famille. Et en fait, ça a fait 2 ans que j'y pense, mais que je ne fais rien pour y arriver. Donc, je me suis vraiment dit que ce serait... il faut que je me mette un petit coup de boost là-dessus. Ça, c'est assez important. Il y a aussi l'académie que je fais, la Croco Académie. Je vais en faire une dernière en mars. Ce serait peut-être réfléchir à des partenariats avec les photographes que je forme. Est-ce que ceux qui sont vers la Suisse, là où je ne peux pas trop aller parce que j'ai moins le temps de me déplacer... Est-ce que je ne ferais pas des choses en partenariat avec certains photographes qui pourraient filmer pour moi ? C'est des idées, mais je n'ai pas encore réfléchi à ce que je voulais au fond de moi. Voilà, et après, me recentrer aussi sur ma ville autour de Paris pour aller bosser à vélo, enfin bosser autour de chez moi, mais ça fait 3 ans que je le dis et que je ne le fais pas, mais ce serait la priorité pour me recentrer en famille, pour être encore plus alignée et encore plus présente chez moi.
Tu le sais, avant de terminer le podcast, je pose toujours 3 questions. Il y en a une qui a légèrement évolué. Qu'est-ce que tu conseillerais aux entrepreneuses qui sont déjà lancées, mais qui ont justement envie de passer un cap dans leur entreprise ?
Je peux conseiller plusieurs choses ou pas ?
Bien sûr.
La première, c'est de ne pas s'oublier. Vraiment, vraiment, prenez des vacances. Moi, personnellement, je pose mes vacances en priorité dans mon agenda. Tout le reste gravite autour. Je mets des limites, c'est-à-dire que je travaille plus pendant les vacances, etc. Et finalement, je me rends compte que même si j'ai l'impression de perdre du temps, en fait, je me repose et ça, c'est hyper important. Deuxième chose, entourez-vous. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent.
Oui, c'est sûr, c'est ça.
Enfin, on est
la moyenne
des 5 personnes qui nous entourent. Donc, entourez-vous d'entrepreneurs. Arrêtez de parler à votre famille de ce que vous faites. Ils ne comprendront de toute façon pas. Ils vous demanderont quand est-ce que vous allez reprendre un CDI. Essayez d'éviter aussi ces sujets un peu stressants avec votre conjoint, votre femme, etc. Bien s'entourer d'entrepreneurs, éventuellement avec des entrepreneurs un petit peu, soit au même niveau que vous, soit au-dessus, pour pouvoir avancer. N'ayez pas peur de partager vos prix, vos tarifs. Pas de tabou quoi, entre nous, je pense.
Merci pour ça. J'entends encore trop d'entrepreneuses que se passe parler de leurs tarifs entre elles,
ah oui,
alors qu'elles sont sur des sujets qui n'ont rien à voir. Et c'est tellement important de se parler de chiffres, ne serait-ce que pour s'habituer à en parler tout le temps et à être hyper à l'aise le jour où tu as un client qui te le demande.
C'est clair, c'est hyper important. Et essayez peut-être de vous trouver une business friend. Moi, j'en ai deux. On s'envoie des messages quasiment tous les jours de nos échecs, nos déceptions. Ensuite, la troisième chose, en fait, ça ne s'arrête jamais, les conseils. Troisième chose, ce serait d'investir. Essayez de voir s'il y a des choses que vous n'aimez pas faire dans la journée. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pourriez déléguer ? Parfois, ça vous coûtera peut-être 200 euros, mais ça va vous faire gagner 3 jours dans votre semaine et la charge mentale en moins, donc ça peut valoir le coup. Donc, peut-être déléguer des petites choses par-ci, par-là, ou se faire accompagner, se faire coacher, se faire aider par des mentors ou des gens qui sont déjà passés par ce que vous faites. Et le quatrième, j'avais regardé le documentaire de Angèle, la chanteuse, qui disait qu'il y avait la Angèle sur scène et la Angèle à la maison, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu, quand je veux me sentir un peu plus powerful, bah, je m'habille de façon colorée. Enfin, j'essaye de porter une cape de super-héros quand je bosse et ça me donne un peu de pouvoir. Donc aussi se mettre dans une démarche de se dire « je vais réussir, ça va être génial ». Et de s'auto-convaincre tous les jours et de se le redire. Et kiffer, quoi. Kiffer, on n'est pas là pour souffrir. Sinon, autant retourner dans nos jobs d'avant et essayer de vous construire votre vie de rêve. On est là pour ça, quand même.
Quelle est l'entrepreneuse que tu admires et que tu aimerais bien écouter dans ce podcast ?
Bah, toi, ouais. On pourrait t'écouter, quand même. Et sinon...
Écoute, on me l'a déjà dit.
C'est vrai ?
On m'a dit. Que...
Ah, mais il faudrait trop que tu
Est-ce fasses. Que je peux venir t'interviewer dans ton podcast ? Je me suis dit...
Mais oui.
Ok, c'est une manière d'amener les choses.
On veut tous. Bah, moi, je suis assez fascinée par Aline de The Bee Boost, qui a fait le podcast « Je peux pas, j'ai business
ouais. ».
Alors, j'écoute beaucoup ses podcasts, mais je pense qu'elle a beaucoup de choses à apporter aussi. Et c'est, je l'ai vue sur scène, c'est quelqu'un de bienveillant, très ambitieuse et hyper sympa. Elle véhicule pour moi un super message.
Elle, pour le coup, elle a vraiment construit un énorme écosystème. Quoi.
C'est ça.
Elle a réussi à créer une formation phare qui est incroyable et elle accompagne, je ne sais pas à combien elle est aujourd'hui, mais elle doit être à des milliers d'entrepreneurs et d'entrepreneuses accompagnées. Elle en a fait un show, enfin, je trouve
c'est ça
incroyable.
Et pour l'avoir rencontrée en vrai, c'est vrai que tu la vois, elle te vend des choses, mais en fait, tu as l'impression qu'elle te fait un cadeau, parce que ça t'apporte tellement de valeur, elle est tellement sympa. Elle sortirait n'importe quelle formation, je pense que j'achèterais. Je suis carrément convaincue, donc je dirais Aline, oui.
Et dernière question, quel est le média, livre, podcast, film qui t'a marqué à un moment donné ?
Je vais plutôt parler de podcast et plutôt parler de livres également. Il y a un livre que j'aime bien, c'est un peu mon livre de chevet qui s'appelle « Tu vas tout déchirer ». J'arrive pas trop à me souvenir des auteurs parce que j'ai tendance à acheter des livres business. En fait, je les lis pas parce que je préfère lire des romans. Parfois, je me dis non, le soir, il faut couper. Quand tu regardes les rayons de développement personnel et d'entrepreneuriat, c'est fascinant, quoi. T'as tellement de choses à apprendre. Sinon, en termes de podcast, donc il y a celui-ci, « Je peux pas, j'ai business ». Il y a « Femmes ambitieuses » que j'aime énormément. Et je crois que mon préféré de tous, après le tien, c'est « Vendre » de Mickaël Aguilar.
Ah.
C'est un homme, tu connais ?
Oui.
Il est incroyable, incroyable. Je l'ai vu sur scène aussi. Tu te marres, c'est des épisodes courts de 6 minutes. Tu te marres, t'apprends des choses. J'aime énormément.
Merci beaucoup, Clara.
Bah, merci à toi, c'était super. Très bel échange. J'espère que ça vous aura apporté des petites clés.
« Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en me laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful Club ou sur LinkedIn Delphine Barnavon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt !